Réplique, la tolérance est-elle une vertu ? Avec Claude Habib et Pierre Manant. Dans une lettre datée du 27 décembre 1682, Bossuet écrivait « L'hérétique est celui qui a une opinion. Et c'est ce que le mot même signifie. Qu'est-ce qu'une opinion ? C'est suivre sa propre pensée et son sentiment particulier. Mais le catholique est le catholique, c'est-à-dire qu'il est universel. Et sans avoir de sentiment particulier, il suit sans hésiter celui de l'Église. » Ces phrases nous révèlent à nous-mêmes, parce qu'elles nous donnent à lire le très exact contraire de ce que nous sommes, catholiques ou pas, croyants ou athées, ce qui nous caractérise, ce qui nous constitue, ce qui fait de nous des modernes, c'est la tolérance. La tolérance est devenue notre vertu centrale, et même, comme l'écrit Claude Habib dans son dernier livre, la seule vertu que nous honorions collectivement. Ni la prudence, trop rabat-joie, ni le courage, trop viril, pour ne rien dire de la tempérance ou de la chasteté, ne peuvent rivaliser avec la place qu'elle a prise. Nous défions des anciennes vertus et de leur prix astronomique. Tant de jeunes gens sont morts à la guerre, tant de jeunes filles ont séché sur pied pour se conformer à la chimère de l'honneur. Mais nous ne pouvons pas en rester là. Les événements nous bousculent et font naître une multitude de questions. Cette vertu peut-elle occuper à elle seule tout le champ de la morale ? Elle terrasse les préjugés, mais que faire face à l'intolérable ? Peut-on s'en sortir en disant que le barbare, c'est d'abord l'homme qui croit à la barbarie ? Si le mal existe, sommes-nous armés pour y répondre? Où situer la frontière entre la bienfaisante ouverture d'esprit et le glaçant nihilisme du « tout se vaut, du tout est égal » ? Ces questions et quelques autres, nous tâcherons d'y répondre avec Claude Habib et avec Pierre Manant, à qui l'on doit une anthologie devenue classique des penseurs libéraux et une histoire intellectuelle du libéralisme. Et comme mes invités sont calés, je vais commencer par la question d'Agreg. Qu'est-ce précisément que la tolérance et comment expliquer son surgissement, puis son triomphe sans partage dans les sociétés occidentales ? Claude Habib.
C'est pas une question difficile, c'est la suite, c'est la conséquence des guerres de religion, du schisme protestant qui provoque ces guerres dans toute l'Europe, particulièrement en France, mais dans toute l'Europe au XVIe siècle. Alors, il y a au début des tempéraments qui refusent la cruauté, on peut penser à Montaigne, mais tout ça, ce ne sont pas des élaborations théoriques de la tolérance. On voit aussi autour de l'affaire Servet, à Genève, chez Calvin, des gens qui commencent à penser à la liberté de conscience, mais l'élaboration, il me semble que c'est au XVIIe qu'elle se formule le plus abondamment et le plus clairement, après la révocation de l'édit de Nantes, donc en 1685 par Louis XIV. Et là, vous avez la même année, en 1686, deux ouvrages majeurs qui sont rédigés. Le commentaire de Bayle sur la formule de Saint-Augustin « contraint-les d'entrer », qui sert de justification au fait de forcer les consciences des protestants, de les ramener de force dans la vraie foi, et la lettre sur la tolérance de Locke. Et ces deux écrits sont rédigés la même année, en 1686, en Hollande, la Hollande étant la terre de la liberté de penser. Alors, ces élaborations, elles sont le socle de notre vie moderne. Ce que Bayle avance, c'est-à-dire la liberté de conscience couplée avec la liberté d'expression, parce que c'est pas le tout d'être seul à penser ce qu'on pense, mais il faut pouvoir le confronter aux opinions d'autrui. Cette valorisation de la liberté de conscience, parce qu'avant vous trouvez le terme tolérance, mais le terme dit ce qu'il dit étymologiquement, c'est-à-dire on est forcé de supporter un état de fait, un état réputé dommageable à la nation. L'édit de tolérance, c'est pas du tout une vertu. Mais le moment où ça devient un bien, où ça devient une vertu, je crois que c'est 186 qu'on peut facilement le dater.
Pierre Manon.
Ce qui a donné aux guerres de religion leur rôle central dans l'histoire de l'Europe, qui fait que encore aujourd'hui la façon dont nous rapportons les uns aux autres est en somme une conséquence des suites que nous avons tirées des guerres de religion, ça tient au caractère singulier de la religion chrétienne. Mais ce qui a donné à ces guerres leur cruauté spécifique et a fondé le défi qu'elles ont proposé à ceux qui les ont subies et conduites, c'est que la religion chrétienne, je dirais, est la religion qui la plus exigeante d'une part et qui pénètre le plus intimement l'intériorité de l'âme humaine. C'est-à-dire que elle lie de la façon la plus étroite des propositions théoriques, des dogmes et la conduite la plus intime de l'être humain. Donc, si j'ose dire, toutes les puissances, toutes les ressources de l'être humain sont sollicitées, mobilisées par cette religion. Et donc, lorsque une division irréconciliable apparaît sur ce que doit être la vie chrétienne, sur ce que doit être le sens des paroles du Christ, alors, si j'ose dire, chacun, du moins à condition qu'il prenne tant soit peu au sérieux sa religion, chacun est ébranlé au plus profond de son être. Donc c'est un défi à la fois politique, parce que la communauté de vie est divisée, et c'est un défi intime, un défi de chacun, un défi qui pénètre toutes les familles. C'est un point que Montaigne souligne. Autour de lui, les familles sont divisées, et je crois que cela veut dire aussi que sa propre famille était divisée. Donc, ayant subi en quelque sorte l'ébranlement le plus profond, tout l'appareil psychique et moral des Européens a été bouleversé.
Oui, alors on peut dire justement que c'est épuisé, dévasté par ces guerres civiles religieuses qui concernaient le plus intime de chaque être, dites-vous Pierre Manant. Les sociétés européennes se sont progressivement rendues compte qu'il leur fallait accepter le désaccord sur les finalités ultimes de l'existence pour survivre et former un monde commun. On pourrait dire donc que le pluralisme que nous connaissons aujourd'hui est l'enfant du premier « plus jamais ça » de l'histoire européenne. Plus jamais les guerres civiles religieuses. Et je voudrais vous donner une citation de Diderot, un de vos auteurs, Claude Habibe, qui définit très bien la tolérance et peut-être ce nouveau régime de l'âme. « Si vos opinions vous autorisent à me haïr, pourquoi mes opinions ne m'autoriseraient-elles pas à vous haïr aussi? Si vous criez « c'est moi qui ai la vérité de mon côté », moi j'ajouterais « et qu'importe qui se trompe, ou de vous ou de moi, pourvu que la paix soit entre nous. Si je suis aveugle, faut-il que vous frappiez un aveugle au visage ?» La voilà, la tolérance.
Voilà la tolérance, c'est-à-dire l'exigence minimale de la paix. Hein, pour entretenir la paix civile entre des opinions discordantes et plus tard entre des mœurs différentes, il faut se supporter, il faut avoir une distance envers ses propres opinions, avoir une élasticité intérieure telle que on ne prenne pas pour une agression une pensée différente.
Oui,
bien maintenant.
Les suites de ces événements n'a pas conduit nécessairement à l'acceptation du pluralisme. Après tout, surtout en France, avec la République, il y a une recomposition de l'ensemble collectif, mais une recomposition qui visait à une nouvelle homogénéité sur une nouvelle base. On a accepté la diversité religieuse, mais pour reconstituer le commun, on a entendu produire une homogénéité politique. Donc la volonté générale, on ne peut pas dire que la volonté générale représente la reconnaissance du pluralisme. Le terme de pluralisme conviendrait peut-être à l'évolution du Royaume-Uni ou de l'Angleterre, mais ou des États-Unis éventuellement. Mais une autre réponse à la division religieuse a été de chercher l'unité, non plus dans la religion, mais dans l'ordre politique.
Mais une unité qui allait de pair avec une certaine pluralité, parce que la République était quand même un régime parlementaire.
Oui, mais enfin, je veux dire, le régime parlementaire, vous savez, comme moi, le temps qu'il a mis pour s'installer, et vous savez, la prodigieuse pression unificatrice est peu favorable à la pluralité que le mouvement révolutionnaire français a introduit dans la substance française.
Oui, je dis... Non, ce que je pense, c'est que les choses se sont faites lentement et en plusieurs temps. Mais on peut penser que la tolérance est porteuse, à plus ou moins long terme, du pluralisme dans lequel nous vivons. Et d'ailleurs, vous citez Claude Habib, aussi bien Bell que Locke, qui disent l'un et l'autre que l'homme est sujet à l'erreur, donc il doit se montrer disponible à la conversation. C'est un des aspects de la tolérance qu'on retrouve. Alors là, vous avez raison, c'est le Royaume-Uni, mais j'étais frappé en relisant De la liberté de John Stuart Mill, de sa manière de définir la liberté de pensée et de discussion. Parce qu'il ne dit pas « c'est mon droit ». C'est pas la liberté qu'a chacun de dire ce qu'il a envie de dire, c'est la liberté qu'a l'autre de réfuter, mon opinion, et c'est la condition même qui me permet de présumer la vérité de cette opinion en vue d'agir. Cette liberté, donc, est la seule façon rationnelle donnée à un être doué de facultés humaines, de s'assurer qu'il est dans le vrai. Donc, nous avons besoin, en quelque sorte, de la liberté d'expression des autres pour progresser dans notre propre opinion vers une vérité possible.
C'est le principe du meilleur argument. Le principe du meilleur argument, c'est que dans l'interlocution, on va pouvoir, en effet, par approximation, approcher la vérité.
Argument qui s'est formulé dès l'origine, par exemple chez Milton, dans le Réopagitica, qui s'est formulé dans les termes qui deviendront les termes de la concurrence économique. C'est-à-dire, il y a cette idée, peut-être trop optimiste, y compris d'ailleurs dans le cas de la concurrence économique, mais il y a cette idée que si les arguments ont la liberté d'être échangés, eh bien c'est le meilleur argument qui l'emportera. L'expérience a montré que la concurrence des arguments sur la place ne produit pas nécessairement la victoire du meilleur argument. Mais enfin, en tout cas, c'est un argument pour la liberté d'expression qui a été extrêmement puissant et qui continue de nous porter.
Et qu'on trouve chez Bell dans cette hypothèse que si les habitants de la Terre australe venaient en voulant discuter notre religion, la Terre australe qui n'était même pas découverte à l'époque, puisque l'Australie est découverte un siècle plus tard, eh bien il faudrait faire droit à ce que ces habitants de la Terre australe auraient à nous dire, parce que nous ne sommes pas certains de la vérité de notre religion.
Oui, j'ajoute que mêmes qui attendaient les arguments si passionnants des habitants des Terres australes contester le départ des missionnaires catholiques en Chine ou ailleurs au motif qu'ils allaient les rendre mauvais citoyens avant de les rendre bons chrétiens. Donc je douterais de la sincérité des arguments de Pierre Bayle.
Je n'en doute pas personnellement parce que c'est de l'Église de l'époque dont il s'agit et que l'Église dont nous parlons, ce n'est pas celle de après Vatican II. C'est une Église qui n'est pas tolérante et qui en effet menacerait l'empereur de Chine à terme. C'est ça l'argument de Bayle. On ne peut pas laisser entrer dans un corps politique des gens qui sont décidés à ne pas à terme respecter la loi de ce corps politique. C'est ça son argument. C'est pas autre chose. Donc l'empereur de Chine aurait intérêt à ne pas laisser entrer les missionnaires.
Pierre Manon.
Si j'ose dire, si l'échange des arguments est le secret de la de la découverte de la vérité, je ne vois pas pourquoi Pierre Bayle interdirait aux Chinois de recevoir les argumentaires des catholiques, par exemple.
Parce que ce ne sont pas seulement des argumentaires, c'est toujours la question, faut-il tolérer les intolérants?
Il est certain que les quelques missionnaires français qui étaient accueillis, quand ils étaient accueillis en Chine ou au Japon, représentaient un immense danger pour l'Empire chinois. Non.
Frère de Pierre Bayle est mort en prison. Bon, quand votre frère est mort en prison parce qu'il refusait de se convertir, vous avez par rapport à la religion catholique une distance qui n'est pas...
Nous sommes parfaitement d'accord sur ce point.
Bon, alors c'est très bien, mais je voudrais approfondir avec vous cette notion de tolérance. D'abord, en vous citant, après Bell et Locke, Camus. Camus, en 1948, a écrit un très bel article dans la revue Caliban, je crois, Exercice de la démocratie, exercice de la modestie. Il dit, le démocrate est modeste, il avoue une certaine part d'ignorance, il reconnaît le caractère en partie aventureux de son effort, et que tout ne lui est pas donné. Et à partir de cet aveu, il reconnaît qu'il a besoin de consulter les autres, de compléter ce qu'il sait par ce qu'ils savent. Évidemment, nous sommes en 1948, Camus, disons, n'a aucune illusion sur le totalitarisme, et il ne le voit pas comme une religion séculière, mais en quelque sorte comme une grande illusion scientifique. C'est-à-dire le régime totalitaire, et notamment le régime communiste, et l'énigme résolue de l'histoire. Et donc, il répond, le démocrate est modeste. Mais venons-en à la situation actuelle, parce que la modestie n'est pas ce qui caractérise la démocratie, ou en tout cas un certain nombre de démocrates. Parce que la démocratie, ça peut être la participation en commun à la libération du sens, mais c'est aussi pour certains le sens de l'histoire. Et si c'est le sens de l'histoire, on sait où elle va, et dès lors l'adversaire est désigné comme réactionnaire. Je suis frappé, et justement, par la fortune de ce mot aujourd'hui. Bon, je ne dirais pas que ça a commencé avec le petit livre de Ned Lindenberg, Les Nouveaux Réactionnaires, le rappel à l'ordre, mais enfin, il a joué un rôle en tout cas. Et qu'est-ce qu'un réactionnaire? C'est un vivant qui ne sait pas qu'il est mort. Et donc, qui retarde l'épanouissement de la démocratie. Et à cet égard, je voudrais vous citer deux phrases de Pierre Berger, recueillies dans un livre très intéressant intitulé « Les nouveaux vertueux » par Bruno Lafaucade. « Le dimanche a des relents étranges. En un mot, la conception même du dimanche est réactionnaire. » Et puis, il était très énervé contre la manif pour tous. Aussi a-t-il relayé sur Twitter la phrase suivante: vous me direz, si une bombe explose 24 mars sur les Champs-Élysées à cause de la manif pour tous, c'est pas moi qui vais pleurer. Donc là, c'est assez révélateur, en tout cas, justement, de la difficulté où nous sommes. La tolérance est notre valeur centrale, et en même temps, les réactionnaires sont ceux qui n'ont pas voix au chapitre parce que la démocratie se fait en roulant sur leur corps.
Oui, vous avez raison. Au-delà du fait qu'on ne doit pas tolérer les intolérants, et on avait donc cette discussion sur l'Église du XVIIe, XVIIIe siècle, ou sur les frères musulmans aujourd'hui, ça serait la même question. Mais je crois qu'il y a une tolérance extrémisée, comme il y a des droits de l'homme en roue libre, et que cette tolérance extrémisée, où on doit être si tolérant aux opinions d'autrui qu'il faut surtout pas toucher leur susceptibilité, leur sensibilité, bref, une plume fait souffrir, donc il faut donc ménager, c'est le problème du politiquement correct, hein, la sensibilité d'autrui, au point que la tolérance se retourne contre cette discussion qui était la valeur de départ, contre cette interlocution, contre cette recherche du meilleur argument. Et chaque communauté s'enferme, enfin communauté qui peuvent être d'origine, qui peuvent être de genre, qui peuvent être de choix de sexualité, s'enferme dans un entre-soi que les autres doivent respecter. Alors cet usage de la tolérance, il amène à une société de la disjonction, de la contiguïté, qui est, je crois, le contraire de ce qu'on peut espérer comme conversation civique dans une république.
Pierre Manon.
L'intolérance que nous subissons, elle est assez mystérieuse quand même, parce que, au fond, jamais les sociétés n'ont été aussi libres que entre le début du 19e siècle et les années 60, 70 peut-être encore. Et dans les dernières 20 années, il y a vraiment une régression constante de la liberté de parole, dans ce pays. Jamais les, comment dire, par exemple les médias nationaux n'exercent tous les matins, il y a trois chroniques pour mettre les Français dans la bonne direction, n'est-ce pas ? Pour mettre les Français dans la bonne direction. Je suis un adepte de France Info. C'est vraiment très impressionnant comment, dès 7h du matin, nous sommes à l'école des valeurs de la République. Donc, ce phénomène de restriction continue de la liberté, quel est le ressort ultime ? Nous ne sommes pas entourés de méchants qui veulent nous tyranniser. Alors, je crois qu'un des ressorts, c'est tout de même cette idée, cette représentation aujourd'hui que l'horizon naturel de nos vies, c'est une humanité réunie entièrement homogène. Donc, tout ce qui va dans le sens d'une humanité réunie entièrement homogène est bon. Tout ce qui paraît rompre cette homogénéité est mauvais. Donc, qu'est-ce qui rompt cette homogénéité ? Eh bien, tout ce dont nous résultons. Nos religions anciennes, nos nations anciennes, nos régions anciennes, nos opinions anciennes. Et donc, tout doit nous pousser dans un grand rassemblement de la similitude. Un grand rassemblement de la similitude. Ce qui fait que, évidemment, donc les possibilités pour les groupes et les opinions de se déployer sont extrêmement limitées.
C'est intéressant parce qu'il y a un paradoxe. Le nom de cette homogénéité, notamment aux États-Unis, mais ça vient en France, c'est le multiculturalisme. Cette homogénéité dont vous parlez, eh bien, a pour drapeau la différence. Et parce que le multiculturalisme se présente à son tour comme l'énigme résolue de l'histoire. Dès lors, c'est la nouvelle Église qui ne tolère aucun hérétique. Et d'ailleurs, l'accusation portée contre ceux qui suivent des voies divergentes, eh bien, c'est la pire accusation d'aujourd'hui. Ils sont taxés de racisme. On le voit, par exemple, avec les polémiques américaines contre la France, relayées aussi en France, c'est-à-dire sur le foulard et le voile intégral. Vous en parlez, Claude Habib, dans votre livre, mais des universitaires distingués, comme Charles Taylor ou Martha Nussbaum, ne craignent pas de parler d'une France raciste pour qualifier les lois, des différentes lois d'interdiction, le voile à l'école et le voile intégral dans l'espace public. Donc c'est une intolérance majeure au nom de la tolérance absolue et c'est une homogénéité grandissante enveloppée dans le drapeau de la différence. Claude Habib.
Je ne sais pas comment accorder vos deux visions. Je suis d'accord quand même avec Pierre au sens où toutes les frontières sont frappées d'illégitimité, y compris la différence des sexes. On n'a plus le droit de dire différence des sexes, il faut dire différence des genres, tout en pensant que les gens sont fluides et qu'on peut passer de l'un à l'autre par le seul effet de la volonté, par le seul désir, hein, par cette liberté individuelle chérie. Alors, à la fois, il y a ce phénomène d'effacement des frontières et c'est ce respect d'une société inclusive, incluant toutes ces communautés. Je ne sais pas comment résoudre ce paradoxe.
Mais vous écrivez quand même, quand la tolérance est devenue la valeur officielle des sociétés démocratiques, la chasse à l'intolérance est la dernière chasse aux sorcières qui soit permise.
Ah, c'est vrai.
Et on peut dire qu'elle s'en donne à cœur joie.
C'est vrai. Et j'ai lu avec amusement dans Libération que le terme raciste est employé dans les cours de récréation aux États-Unis comme une insulte, et comme une insulte qui a d'ailleurs perdu son sens, c'est-à-dire c'est raciste veut dire c'est stupide. Tu es raciste, ça veut dire tu es idiot. Donc c'est démonétisé, c'est la chose à ne pas être, et c'est le dernier interdit.
C'est bien maintenant. Et ça contribue aussi à vider vraiment la vie sociale de tout intérêt, parce que si je ne rencontre que des semblables, et si la seule chose que nous avons à nous dire l'un à l'autre, c'est « vous êtes mon semblable » et c'est vraiment formidable, évidemment, plus personne ne propose quoi que ce soit d'intéressant à l'autre, puisque l'autre, normalement, m'intéresse s'il est un peu différent de moi et s'il me propose quelque chose que je ne savais pas ou à quoi je n'avais pas pensé ou que je ne ressentais pas. Bref, s'il est différent et si il a le droit de proposer cette différence, et si moi j'ai le droit de réagir à sa différence par l'approbation, la réprobation, la discussion. Mais si, encore une fois, le seul ressort de la circulation de la parole, c'est
l'affirmation de la
ressemblance, eh bien, le langage est privé de motif, d'une certaine façon. Et c'est pour ça, le langage étant privé de motif, qu'on recourt tellement à l'affect, et que vous voyez que les ennemis de la nouvelle orthodoxie sont désignés sous le nom de phobie. Parce qu'une phobie, ce ne sont pas des arguments, c'est une sensation. Ou c'est une maladie. Donc, ou c'est un affect, ou c'est une maladie. Donc, ça ne peut pas entrer dans la discussion. Lorsque vous êtes traité de phobe quelque chose, vous n'êtes pas reconnu comme un animal rationnel, comme quelqu'un qui a peut-être des choses à dire. Non, vous êtes soit malade, soit emporté par des passions.
Vous dites affirmation de la ressemblance, mais c'est aussi une affirmation de la subjectivité dans ce qu'elle veut avoir d'irréductible. Et ça, c'est un autre problème soulevé par la tolérance, lorsqu'elle n'est pas elle-même civilisée, si j'ose dire. J'y ai fait référence dans la présentation. Le relativisme et même le nihilisme, tout est égal. J'ai parlé récemment avec une jeune professeure de français, très enthousiaste, très intelligente. Elle a des classes de première, et elle ne veut rien céder quant à l'exigence, au choix des grands textes. Mais justement, comment faire ressentir la grandeur à des élèves qui répondent immédiatement avec ces mots-là ? Tout jugement est subjectif. Tout jugement est subjectif. Dès lors, elle se trouve désarmée face à ce qui est devenu une idéologie de la tolérance, c'est-à-dire un tolérantisme universel qui noie aussi la conversation. Parce que, effectivement, d'ailleurs, c'est ce que disait Alan Bloom dans son livre L'âme désarmée. C'est-à-dire, Platon a son opinion, moi j'ai la mienne. Voilà oui. Ce à quoi il se heurtait déjà dans les années 80, lorsqu'il était en position d'enseignant.
C'est extrêmement difficile,
Claude Abîme.
Particulièrement pour les professeurs de français, et je l'ai été, parce que non seulement ce sont vos valeurs, ce ne sont pas les miennes, mais même le sens du texte est attaqué. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de reconnaissance de ce qu'est un contresens. Et j'ai vu à l'université que, au niveau des professeurs d'université, ça chancelle aussi. C'est-à-dire que un bon nombre de mes collègues pensent que le contresens n'existe pas et qu'il n'y a que des expressions qui sont légitimes, et plus elles sont nombreuses et fécondes, et mieux ça vaut. Et vraiment, ça attaque l'enseignement universitaire. Bon, on l'a vu l'année dernière avec cette enseignante de Paris 3 qui soutenait que les grandes figures de la littérature agissaient comme ça parce qu'elles avaient été violées, Carmen avait été violée, et que c'était toujours ça le ressort fondamental.
C'est-à-dire, elle avait lancé une sorte de mot d'ordre qui n'était pas tout à fait un hashtag, mais « balance ton porc dans la fiction ».
Voilà. Mais si vous avez des professeurs de fac qui renonce à la boussole de l'intention d'auteur et de chercher ce qu'un texte veut dire et veut dire selon son auteur, on comprend bien que il soit désarmé pour enseigner ensuite aux élèves qu'il y a une hiérarchie des significations. Il y en a qui sont plus respectables, plus importantes, plus que d'autres.
Est-ce à dire, au bout du compte, que la tolérance est une fausse valeur, Claude Abîme? Ou bien, je peux formuler ma question, quel serait un bon usage de la tolérance? Comment peut-on être tolérant, c'est la question, c'est le titre de votre livre, sans tomber dans tous les écueils que nous avons
énoncés? Être tolérant, ce n'est pas être accepté. Si vous tolérez la cruauté, vous êtes un lâche. Si vous regardez quelqu'un battre une femme devant vous dans le wagon de métro et que vous levez pas le petit doigt, vous êtes un lâche. Mais si vous êtes tolérant à une contre-vérité complète, et que devant un élève qui dit n'importe quoi, vous dites « Ah, c'est ton opinion, merci de l'avoir exprimée », c'est aussi une forme de lâcheté. La tolérance, elle ne doit pas être un renoncement intérieur à la recherche de la vérité. Si c'est ça, oui, en effet, on est dans le nihilisme immédiatement.
Et Pierre Manant, y a-t-il un bon usage de la tolérance, ou est-ce qu'avec la tolérance, l'Occident a entamé son déclin?
En tout cas, on peut essayer de revenir à l'argumentaire classique pour la tolérance dont nous avions parlé, c'est-à-dire l'échange des arguments. Et l'échange des arguments conduisant, espère-t-on, vers le meilleur argument. Donc reprenons l'idée de départ du libéralisme, de l'Europe, de la société, de la tolérance où règne la raison, et redonnons force à l'argumentation. Mais donc cela, ça dépend de notre courage, comme disait Claude Habib, et aussi d'une certaine constance dans l'effort pour proposer des arguments. Une des causes de l'effondrement de la discussion, n'est-ce pas, c'est l'inflation de la notion de valeur, n'est-ce pas, parce que la notion de valeur tue toute argumentation, puisque évidemment la valeur, c'est l'absolu que nous nous sommes donné, n'est-ce pas, quand le porte-parole du gouvernement, cette fontaine inépuisable de citations, n'est-ce pas, quand le porte-parole du gouvernement dit nous ne tergiverserons pas avec nos valeurs, on voit bien qu'il institue immédiatement une interdiction de parler de ce qui est le plus intéressant, n'est-ce pas. Donc, les valeurs, c'est ce dont nous ne discutons pas, donc cessons de parler de valeurs et proposons des arguments rapportés aux divers sujets qui nous divisent. Parce que les valeurs interdisent la discussion. Vous avez vos valeurs, j'ai les miennes. Bien. Donc, nous avons tous, ceux qui écrivent, ceux qui parlent, les politiques, tous à faire un effort pour retrouver le bon vieil argument. Je veux dire, quand, à l'époque, n'est-ce pas, où régnait la pression totalitaire, n'est-ce pas, dans le Parti communiste, on ne parlait pas de valeurs, on avait des cahiers d'arguments extrêmement, extrêmement élaborés. Alors, je ne dis pas que c'est... Non, mais je ne plaide pas pour l'argumentaire du vieux Parti communiste, mais je veux dire qu'on avait le souci de l'argumentation, parce qu'on pensait que l'on persuadait les sociétaires ou les concitoyens par des argumentations. On ne parlait pas de valeurs. Donc, voilà, nous avons... c'est la tâche que je nous propose, n'est-ce pas ? Essayons de dire tout ce que nous avons envie de dire sans employer le mot de valeur. Et vous verrez, d'abord, la difficulté que nous aurons à trouver des choses à dire, peut-être, mais aussi le progrès que nous ferons quand nous réussirons à dire quelque chose.
Une autre difficulté tient, me semble-t-il, à la présence et la généralisation de la haine. Nous avons parlé de la tolérance et de ses excès paradoxaux. Mais les réseaux sociaux auraient pu être le lieu d'un échange, certes désordonné mais libre, des arguments libres, c'est-à-dire, on peut dire, délivrés de l'oppression, de l'hiérarchie, de toutes les formes de pouvoir. Or, les réseaux sociaux n'ont pas libéré la parole de l'oppression, elles l'ont libérée de la civilisation. Elles l'ont désinhibée, ce qui nous fait apparaître, par contraste, la haute vertu de l'inhibition. Donc on se rend compte que la spontanéité n'est pas innocente, comme le pensait à 68. La spontanéité peut avoir quelque chose de barbare. Et quand Édouard Philippe, par exemple, annonce le 7 janvier une loi anti-casseur, il lui est répondu ceci sur les réseaux sociaux, mais c'est une réponse parmi d'autres. « Bienvenue dans la dictature, on t'emmerde sale bouffon et on aura ta peau ». Or, bon, ça apparaît avec le mouvement des Gilets jaunes, dont certains Gilets jaunes, d'ailleurs, sont aujourd'hui les premières victimes, mais ça existe aussi ailleurs. C'est vraiment le grand défouloir d'Internet. Alors, comment expliquer, là où la tolérance, dans ce monde où la tolérance est notre valeur centrale, cette explosion de la haine ? Claude Abîme.
J'ai pas recours aux réseaux sociaux, donc je me rends mal compte de ce qui s'y produit, mais je pense que c'est aussi lié aux médias, ou médiums plutôt, c'est-à-dire que quand vous avez anonymat, vous avez déchaînement. Donc tant qu'il n'y aura pas de responsabilité, tant qu'il n'y aura pas de signature, eh bien avant l'anonymat c'était des lettres de corbeau, eh bien on peut dire que Facebook et compagnie sont des espèces d'énormes boîtes à lettres de corbeau. Donc je trouve pas ça tellement étonnant que quand on ne signe pas, les parties les plus basses s'expriment, parce que les passions négatives, c'est-à-dire le dégoût, l'angoisse et la haine, sont censurés dans l'interlocution normale. Ce sont des choses qui sont refoulées, inhibées. Et si vous soulevez le couvercle, l'individu n'étant plus responsable, ne payant plus de prix pour ses paroles, évidemment, c'est ça qui va apparaître.
Pierre Manant.
Ce qui me frappe, c'est qu'il n'y avait pas de haine en 1981. Lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, c'était un grand événement politique, un énorme événement politique. Alors, il y avait beaucoup d'anxiété d'un côté.
Oui, il y avait une angoisse de droite, quand même.
De peur. Moi, j'étais du côté de ceux qui avaient peur, et qui étaient très inquiets de ce qui allait se passer. D'autres étaient pleins de joie et d'espérance. Mais je n'ai pas le souvenir qu'il y ait eu, ni d'un côté ni de l'autre, des sentiments, des manifestations de haine. J'ai rencontré beaucoup de désaccords et de disputes, mais jamais de haine proprement dite. Pourquoi ? Je pense tout simplement, d'abord, c'est que les enjeux étaient réels. Il y avait des possibilités réelles. Il allait se passer quelque chose. L'avenir inquiétant ou, au contraire, rempli de belles couleurs était devant nous. Donc, il y avait une perspective pratique qui nous mobilisait. Les enjeux étaient formulés, argumentés. Ils étaient clairs, même si chaque parti avait ses zones d'obscurité dans l'argumentation. Mais enfin, on proposait des choses avec des mots et des arguments. Et donc, la vitalité de l'expression publique de la parole empêchait de se recuire dans une haine qui ne sait plus s'exprimer que par des insultes. Donc là, je crois que, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous subissons la dégradation de l'argumentaire collectif, nous subissons la fin des alternatives politiques, et nous subissons aussi l'impuissance généralisée de la société. Impuissance qui est éprouvée par les Gilets jaunes, impuissance qui est éprouvée par les présidents de la République depuis au moins trois présidents. Donc, une fois que les citoyens se sentent enfermés dans l'impuissance, et des citoyens enfermés aussi dans, habitués désormais, ou ayant perdu l'habitude de l'argumentation, impuissant et ne sachant pas s'exprimer, il n'y a plus que des manifestations de haine comme celles que vous avez évoquées. Juste un mot, le langage de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi est-il condamné à cette escalade permanente de la violence écrite ou orale ? C'est tout simplement parce qu'il n'a plus de doctrine, je veux dire. S'il y avait un socialisme, une doctrine socialiste qui puisse être proposée, mais non, il n'y a plus de contenu de doctrine. Donc il est obligé de monter les enchères rhétoriques pour faire valoir sa radicalité qui n'a plus aucun fondement dans une analyse intéressante personnelle de la société française telle qu'elle est. Donc cette haine est vraiment très liée à notre situation politique.
Oui, mais alors elle va très loin, cette haine, parce qu'est-ce que le conspirationnisme qui fleurit sur la toile, sinon précisément la haine des faits qui contredisent le système, l'idéologie dont on est porteur. Il y a de la haine dans cette façon. Et d'ailleurs, une haine, cette façon de s'en prendre aux journalistes, en tant qu'ils colportent les mauvaises nouvelles. Effectivement, on peut leur faire des reproches, parce que eux-mêmes, disons, veulent être les porte-parole de la bien-pensance, mais il est vrai aussi qu'on leur en veut également de rapporter des faits, oui. Des faits qui dérangent. Donc c'est une haine qui ne s'arrête jamais.
J'ai été stupéfaite par le plaidoyer des avocats. avocats de Nemouche après donc cet attentat terrifiant, puisque les attentats dont les avocats pardon plaident sur une doctrine conspirationniste, Nemouche n'a rien fait,
c'est le
Mossad qui est coupable. Alors ce genre d'argument, avant on les trouvait donc dans les égouts de la toile, mais maintenant ils sortent dans des arènes qui en étaient autrefois protégées. Donc c'est très frappant.
Très frappant, très inquiétant, parce que ça aura aussi, ça reviendra sur la toile, ça aura un grand écho et ça confortera les pires, et notamment les nouveaux antisémites, dans le sentiment qu'ils éprouvent. Moi aussi, j'ai entendu ça, j'étais vraiment terrifié, parce qu'on ne peut pas dire, c'est le délire d'un avocat qui ne sait plus à quel saint ou à quel diable se vouer pour défendre son client, mais ce délire, malheureusement... est assez répandu. Mais alors, là, maintenant, je voudrais aborder le thème peut-être le plus original de votre livre, Claude Habib. Comment peut-on être tolérant ? Parce que vous dites que la tolérance, c'est pas simplement une meilleure disposition envers les opinions des autres, c'est aussi une répugnance, un dégoût surmonté. Il faut, pour bien penser la tolérance, il faut penser son contraire, et son contraire, c'est l'aversion.
Oui,
je pense. C'est-à-dire, Claude Habib.
Je pense que la tolérance, telle que les ministres de l'Éducation nationale successifs la recommandent, elle est comme ça décrochée de tout. Elle est en roue libre. Il faut être tolérant et s'aimer les uns les autres. Et ça ne prend pas. C'est un discours qui est sans effet parce que la réalité est tout à fait différente. L'effort de tolérance, c'est un effort contre soi. Et qui est désagréable à faire, hein. Ravaler son dégoût, c'est pas du tout agréable. Et c'est par rapport à ses propres aversions, par rapport à ce qui nous déplaît, que nous avons cet effort à fournir. Et j'aime citer ce mot de Pierre Pachet, la tolérance, c'est pas de tolérer ma belle-sœur. Et je crois que sa belle-sœur était une personne certainement agaçante et exaspérante, mais c'est beaucoup plus que tolérer sa belle-sœur. C'est vraiment ce qui nous insupporte. D'ailleurs, pendant les guerres de religion, il s'agit de supporter des gens dont on pense qu'ils sont damnés, dont on pense qu'ils sont vraiment mauvais au point d'être damnés. C'est cela, c'est vraiment avec ce qui nous déplaît le plus que l'effort de tolérance doit être fait. Et oui, je pense que les dégoûts, les déplaisirs, d'abord, sont nombreux autant que les goûts et les attractions. Je crois qu'il y a autant d'aversion que d'attraction. Et je pense aussi qu'ils ont une racine physiologique et qu'on ne peut pas éviter d'avoir des dégoûts parce que nous avons des corps qui sont ainsi faits que quand une odeur nous déplaît, quand un mets que nous avons avalé nous déplaît, nous vomissons. Et ça, ce sont des mécanismes, aussi bien le désir a un ancrage physique, bien le dégoût a aussi un ancrage physique, et on ne peut pas l'ignorer, on ne peut pas faire l'ange sans faire la bête et être entièrement coupé de ces événements corporels.
Vous diriez, par exemple, que l'aversion que certains, et notamment certaines femmes, peuvent ressentir à l'égard du voile islamique et plus encore du voile intégral relève du dégoût. Parce que le dégoût, c'est l'altérité qu'on ne peut pas supporter, une altérité laide, si vous voulez. Alors là, bon, par exemple, certains doivent surmonter un dégoût face au handicap. C'est terrible, mais ils ressentent ça, ils ne veulent pas le voir. Mais le voile, c'est plutôt des femmes qui s'identifient aux femmes voilées et qui ne supportent pas ça du fait même de l'identification. Donc c'est une aversion d'un autre ordre.
J'ai dit que nous avons des corps et que nous ne pouvons pas faire comme si nous n'avions jamais de réaction corporelle. Maintenant, la plupart de nos désirs, c'est la thèse de René Girard, sont des désirs mimétiques, sont des désirs qui sont socialisés. Et tout le monde tombe amoureux de Miss Univers au même moment. Et je crois que pour les dégoûts, bien sûr, c'est la même chose. La plupart de nos aversions sont mimétiques. Nous avons une aversion pour ceux que notre groupe nous indique comme étant dangereux pour nous, mauvais. Oui, donc quelques aversions s'enracinent dans des répulsions qui sont élémentaires et la plupart sont socialisées, ça je le crois. Et d'autre part, toutes les aversions ne sont pas à éradiquer, puisque vous pouvez avoir des aversions qui sont non seulement rationalisées après coup, mais que vous jugez raisonnables. Vous jugez que s'opposer au voile est une bonne idée.
Bien maintenant.
Oui, Claude Habib fait ressortir de manière très, très suggestive et je crois très nouvelle le rôle des affects dans toute cette question de la tolérance, au risque parfois d'exagérer le caractère entièrement spontané de nos mouvements. Enfin, je dirais plutôt les choses ainsi. On n'est pas obligé d'éprouver de l'aversion pour, par exemple, le voile islamique, pour penser que c'est une bonne idée de l'interdire ou d'en limiter la diffusion. Je ne pense pas que nos décisions concernant l'ordre collectif sont soit des aversions que nous nous autorisons ou des aversions que nous surmontons. Il y a quand même aussi une approche, je ne dirais pas qui est immédiatement entièrement rationnelle des choses, mais néanmoins, nous ne sommes pas, me semble-t-il, à ce point dépendants de nos aversions ou de nos attractions que peut-être vous étiez tenté de le dire.
D'accord.
Mais en même temps, nous sommes, je crois, dépendants de nos affects. Parce que on n'a pas forcément... Moi, par exemple, je n'ai pas d'opinion. Si vous voulez, je suis affecté par les événements du monde, ça me procure colère ou chagrin. Je suis affecté par mes lectures aussi. Et le résultat, c'est que j'ai des bouffées d'intolérance quand, souvent, je me heurte à des affects divergents. C'est-à-dire, je sors absolument bouleversé de la lecture de Pastorale américaine. S'il y a quelqu'un qui me dit, bon, non, c'est un mauvais roman réaliste, je suis énervé. Plus énervé encore si quelqu'un me dira de Vie et Destin que c'est un roman touffu et sans intérêt. Et j'ai lu une très belle maxime de Nicolas Gomez Davila: notre ennemi est moins celui qui ne partage pas nos opinions politiques que celui qui ne partage pas nos goûts littéraires. Alors bien sûr, cette inimitié-là, on la surmonte, mais on voit dans l'amitié que la tolérance est difficile, parce que oui, la divergence, on se dit, mais c'est pas possible, enfin, on n'a pas le droit de penser comme ça. Et donc, il y a chaque fois un effort à faire pour... Et puis, quelquefois, on se dit, ben non, si vraiment cette personne-là déteste la pastorale américaine, eh ben, on n'a plus rien à nous dire. J'ai plus rien à lui dire.
Je pense que ce plaidoyer pour les affects, on mettra le curseur à un endroit ou à un autre. Il faudra sans doute développer la partie rationnelle de notre âme pour faire plaisir à Pierre, qui aimerait que nous possédions mieux nos... Et d'autre part, je ne vois pas comment on pourrait faire sans une sensibilité de l'esprit.
Ah oui, l'affect est là dans la pensée quand même.
Bien sûr.
Il fait penser.
Mais... Dans le cas du désaccord sur un livre, un film, il y a un facteur qui ne se trouve pas dans les autres motifs de dégoût, d'aversion. C'est tout de même, si vous ne jugez pas de ce livre comme moi, vous suggérez que j'ai mauvais jugement. Et donc, l'amour-propre est immédiatement investi. Parce que s'il ne voit pas ce que je vois, c'est peut-être que moi, je ne vois pas ce qu'il voit. Et donc, son jugement met en cause mes propres capacités. Donc, je crois que là, c'est un cas un peu différent.
Je ne crois pas que ce soit seulement
l'amour-propre. Mais d'autre part, s'agissant de vos indignations, cher Alain, je crois que vous surmontez l'intolérance qui pourrait vous emporter par l'expression même de vos jugements, de vos appréciations. Vous verbalisez avec éloquence vos désaccords, et donc je crois que vous êtes garanti contre toutes dérives d'intolérance.
Je ne dis pas ça pour moi, je dis que contrairement à ce qu'on... Parce que on voit, par exemple, que le XXe siècle est jonché d'amitiés mortes. Emmanuel Berle l'exprime très bien. Tout n'était que rupture et qu'exclusion. Donc on se dit, on a tiré les leçons de tout ça, on va être mieux. Et nous, on va très bien supporter la divergence. Et je me rends compte que ce n'est facile pour personne. On a des discussions sur les gilets jaunes, dans les familles, entre amis, et ça se dispute énormément. Alors bien sûr, on surmonte, mais la dispute est terrible. Donc Et à chaque fois, on peut se dire, mais oui, mais l'amitié est en jeu. Et à un moment, elle peut se briser sur une divergence trop forte, dans la mesure où, dans nos opinions, nos affects sont présents.
Oui, mais c'est ainsi.
Pierre Manon.
Et heureusement que, si j'ose dire, nous sommes encore capables de ces confrontations, de ces oppositions, à condition, encore une fois, que nous daignions argumenter, mais qu'une amitié dépende ou soit mise en danger par des désaccords politiques, des désaccords philosophiques...
Ou même esthétiques.
Ou esthétiques, après tout, ça prouve que les deux amis prennent au sérieux et leur amitié et les grandes questions qui les occupent l'un et l'autre. Donc, moi, je préfère que les amitiés soient préservées, en principe. Mais, je veux dire, ce n'est pas une situation qu'il faudrait réformer.
Ah non, je ne dis pas ça.
Oui.
Non, je ne dis pas qu'il faille la réformer, mais je dis que on ne peut pas s'en tirer simplement avec l'idée que, bon, bah, chacun son opinion. Quoi.
Non, bien sûr.
Ça ne marche pas.
Sûr.
Je voudrais revenir sur le voile, parce que j'ai vu un film de Fellini, je ne sais plus le titre, où soudain passait toute une nuée de femmes voilées vraiment de voile intégrale, et c'était dans le film un moment drôle et érotisé, très érotisé, comme avant cette idée du harem et de la femme musulmane, et une femme voilée, c'était l'idée de promesse sexuelle extraordinaire, et je l'ai vu comme je l'aurais vu à l'époque, et évidemment je ne peux plus le voir comme ça aujourd'hui. Pourquoi je ne peux plus le voir comme ça? Parce qu'il y a un caractère menaçant, et comme vous disiez, le voile est quelque chose qui peut m'arriver à moi.
Voilà.
C'est-à-dire le vêtement féminin a été modifié dans certains quartiers de Paris intramuros. Dans le 19e, dans le 18e, les femmes s'habillent en pantalon, les femmes occidentales non musulmanes ont changé leur manière de s'habiller, et donc le voile, c'est quelque chose qui me menace, qui implique un changement. Donc oui, il y a dans certaines aversions ce caractère rationnel, ce caractère de mesurer un danger qui n'est pas en effet fondé sur une répulsion élémentaire. Je vous l'accorde.
Ben écoutez, merci beaucoup de cette conversation, Claude Habib et Pierre Manant. Je vous rappelle, Claude Habib, le titre de votre beau livre, « Comment peut-on être tolérant ?» Il est publié chez Des Clés de Brouwer. C'était Réplique, une émission d'Alain Finkielkraut, avec la collaboration d'Anne-Catherine Hochard et François Connac. À la technique aujourd'hui, Olivier Dupré. Dans un instant, Concordance des temps de Jean-Noël Jeannenet.